les émissions sur le site de la radio. Donc vous pouvez les réécouter ou les faire connaître à vos amis, à vos voisins, etc. C'est très utile de les faire connaître. Et donc c'est sur le site principactif.net dans la rubrique Amnesty International. N'hésitez pas. Voilà, on va passer la troisième pause musicale. On se retrouve juste après.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International. Pour la suite de son émission, on vient d'entendre un autre morceau choisi par Claire Lise, c'était Souad Massi, une voix féminine, effectivement, comme elle le dit, et ça fait aussi un petit peu référence à, aux bonnes nouvelles concernant la, la libération des femmes en Arabie Saoudite, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, un petit lien. Je crois que Claire Lise, qui ne tarit pas sur les rubriques culturelles ce soir, a encore des informations à vous donner.
Alors là, c'est un livre que j'ai acheté, que j'avais envie d'acheter, qui s'appelle Nos cœurs invincibles. Alors, c'est un, une correspondance entre une étudiante à Gaza et une étudiante en Israël. Et c'est sur une idée de Dimitri Krier, qui est un journaliste au Nouvel Obs, hein, et qui avait publié des récits de personnes vivant en, à Gaza et de personnes vivant en Israël, et qui a eu l'idée de cette correspondance entre ces deux jeunes filles, Tala Albana, qui vit à Gaza, et Michel Amzalak qui vit en Israël. Donc elles vivent à une dizaine de kilomètres l'une de l'autre, séparées par un mur. Tala, une Palestinienne de Gaza City, et Michel, une Israélienne de Sderot. Pourtant, leurs mondes ne peuvent pas être plus éloignés. Élevées pour se détester, elles ont accepté de s'écrire. Tala était curieuse de voir si elles avaient quelque chose en commun. Michel, elle, pensait que cela pourrait l'aider à ne pas se perdre dans le sentiment de colère et d'amertume dans lequel beaucoup de personnes ont sombré. De mars 2024 jusqu'à aujourd'hui, au milieu des tirs de roquettes, du chaos de la guerre et de la mort de leurs proches, elles se parlent de leur quotidien, de leurs études de droit, de leurs peurs, mais aussi de leurs livres préférés, de leurs rêves et de leurs projets pour l'avenir. Cette correspondance inédite, proposée par Dimitri Krier, journaliste au Nouvel Obs, n'est pas seulement un document exceptionnel sur la vie de ces deux étudiantes, elle ouvre un dialogue entre Gaza et Israël, entre deux jeunes femmes, entre deux cœurs invincibles qui ont préféré les mots aux armes pour résister. Alors je vais vous lire deux petits passages, je vais me faire tirer les oreilles, mais j'ai envie de vous lire un petit bout de...
Il n'y a personne pour te tirer les oreilles, voilà. Pourquoi tu veux qu'on
un petit bout de la lettre de Michel, donc qui vit en Israël. Alors, Sderot, Israël, 16 juillet 2025. Cher Tala, je suis heureuse que tu trouves un certain réconfort dans l'écriture. Tes lettres sont bien plus que de simples textes personnels. Ce sont des fenêtres ouvertes sur une réalité difficile à comprendre, mais pourtant essentielle. Tu m'as dit une fois que tu avais l'impression que les vies à Gaza étaient réduites à des nombres. Ta capacité à saisir à la fois les luttes quotidiennes et les questions plus profondes sur l'humanité dans des circonstances aussi difficiles est remarquable. Je pense que quiconque lit tes mots se sent plus proche du peuple de Gaza. Tu nous montres l'humanité que les statistiques ne peuvent pas rendre. À travers tes mots, tu donnes des noms, des visages et des histoires à des personnes qui autrement ne seraient pas entendues. Alors que j'écris cette lettre, les médias parlent d'un possible cessez-le-feu. Pour être honnête, je ne suis pas optimiste. Notre gouvernement compte de nombreuses personnes qui rêvent de réinstaller les colonies à Gaza. Elles n'approuveront pas une véritable fin de la guerre et elles reprendront sûrement ensuite les attaques. Je pense que tu as raison de dire qu'il n'existe pas de vrais États démocratiques. Il semble que beaucoup de pays condamnent les violations des droits humains mais refusent d'agir. J'ai le sentiment que pour les dirigeants, l'argent, la vente d'armes et les intérêts politiques personnels comptent davantage que les tragédies qui se déroulent dans le monde. En Israël, notre gouvernement est fragile. Notre Premier ministre, Benjamin Netanyahou, est moins populaire qu'avant et il fait face à des procédures judiciaires en Israël, tout comme à l'international, où il est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il faut au moins 61 députés pour que sa coalition reste au pouvoir. Pour cela, il s'est allié à l'extrême droite la plus radicale. Et s'il ressent la pression de la communauté internationale pour mettre fin à la guerre, il fait aussi face à celle de ses alliés qui quitteront la coalition s'il cède. Il serait alors contraint d'organiser de nouvelles élections qu'il pourrait perdre. Le mois dernier, Israël a attaqué l'Iran et nous avons été en état d'urgence pendant 12 jours, forcés de rester chez nous, près de nos abris. C'était une période effrayante. 28 personnes sont mortes en Israël et plus de 3 000 ont été blessées. Nous étions essentiellement confinés sans savoir quand la prochaine alerte retentirait. J'ai vu plusieurs missiles filer dans le ciel, et même si la plupart visaient le centre d'Israël plutôt que notre région du sud, ici nous sommes un peu mieux. Alors, je ne vais pas vous lire toute la lettre de Michel, hein, mais à un moment donné, elle dit « Depuis plus de 30 ans, Netanyahou parle de l'Iran, affirme qu'ils sont sur le point de développer une bombe nucléaire. C'est devenu presque une blague en Israël. À chaque fois qu'il est confronté à une manifestation ou à une quelconque colère de la société, il invoque l'Iran. Les gens se plaignent du coût de la vie dans le pays et Netanyahou fait un discours sur l'imminence du danger iranien. » Voilà, je crois que cette fois-ci, Netanyahou voulait surtout regagner un peu de popularité en baisse depuis l'année dernière. Alors, les 12 jours de guerre, les infos ont annoncé que nous avions retardé le projet nucléaire iranien. L'avons-nous vraiment fait ? Ce projet a-t-il été déjà une menace pour nous ? Développe-t-il vraiment des armes nucléaires ? Je ne sais pas. Mais je sais que près de 1000 personnes sont mortes en Iran et 28 en Israël, avec des milliers de blessés, et que Netanyahou remonte dans les sondages pour avoir éliminé la menace. Alors j'imagine que pour lui, c'est une victoire. Ce qui m'a le plus troublé, c'est que je n'ai jamais entendu aucun mot sur les victimes civiles en Iran dans nos médias, seulement que des combattants étaient morts. Et elle termine sa lettre en disant « Mon but en t'écrivant n'a jamais été de comparer nos situations. Je sais bien qu'il n'y a aucune comparaison possible entre ta réalité et la mienne. Mon objectif était de dire que, même si nos souffrances sont d'ampleur très différente, nous sommes tous affectés d'une manière ou d'une autre. Je veux que ceux qui lisent nos lettres, qu'ils soutiennent Israël ou la Palestine, comprennent que cette situation ne profite à personne, sauf aux intérêts égoïstes de dirigeants qui n'en paieront jamais le véritable prix. À bientôt, Michel. » Et Tala lui répond, alors je ne vais pas faire aussi long, parce que je vais avoir les gros yeux, « Ma chère Michel, je suis tellement heureuse. »
On a encore un peu de temps.
« Je suis tellement heureuse d'apprendre que mes mots ont résonné en toi. » Une fenêtre sur ce qui se passe ici. J'ai toujours ressenti la responsabilité de documenter, de transmettre les histoires et les expériences que nous vivons comme source de réconfort pour ceux qui se sentent seuls et comme archive pour mon peuple qui disparaît. Les gens meurent quand on les oublie. C'est pourquoi je fais de mon mieux pour garder des noms et des visages vivants à travers mes lettres. La vie à Gaza va vite. Voilà. Alors, elle parle de sa chambre et tout ça, donc je vais sauter un petit peu. Elle reparle aussi de... J'étais également convaincue que la guerre entre l'Iran et l'Israël ne durerait pas longtemps. Je n'ai jamais cru que l'Iran agirait pour nous, pour notre cause. Là, elle parle des Gazaouis, hein. Ils jouent tous un jeu politique, chacun au service de ses propres intérêts. Concernant ton mariage, je te souhaite tout le bonheur du monde et je t'adresse toutes les bénédictions dans les préparatifs à venir. C'est une chance rare de trouver à la fois l'amour et un partenaire de vie en une seule et même personne. L'un de mes rêves est de fonder une famille paisible et épanouie. C'est pourquoi je tiens tant à vivre dans un endroit sûr et respectueux où un avenir est réellement possible. Je crois aussi qu'il n'est pas très réaliste de remettre les grandes décisions de la vie, comme celle de te marier ou non en temps de guerre, à plus tard, en espérant que la situation s'améliore. Nous ne pouvons pas prédire ni si ni quand les choses changeront. Mais l'humanité que tu portes dans tes pensées est précieuse. Elle me rappelle que nos valeurs et notre conscience peuvent parfois nous amener à garder les pieds sur terre et à devenir des personnes plus compatissantes. Alors après, elle parle du projet justement de correspondance. Dimitri m'a informé du projet de livre basé sur nos échanges. Je ressens une véritable excitation à l'idée de devenir autrice. Transformer ces lettres en un livre signifie qu'un public aura la chance de mieux regarder les deux côtés et leurs souffrances, sans minimiser la douleur de quiconque. Ce serait une archive vivante, préservant des événements à la fois historiques et personnels. En tant que co-autrice et avec le grand soutien de Dimitri, je suis vraiment ravie de faire partie de cette aventure avec toi, Michel. J'espère qu'un jour, on pourra dialoguer en face à face, dans un lieu où il sera possible de nous rencontrer comme des êtres humains, égaux, avec respect et dignité. » Voilà. Et elles se sont rencontrées en France. Elles sont passées dans l'émission Quotidien au mois d'octobre. Mmh. Et c'est à la suite de cette émission que j'ai acheté ce livre, donc, qui s'appelle « Nos cœurs invincibles ». C'est chez Flammarion. Nouvelle Obs, et c'est une correspondance donc entre une étudiante à Gaza et une étudiante en Israël, et c'est vraiment à des moments c'est vraiment poignant.
Oui, bah surtout vu l'actualité, c'est bien d'entendre effectivement autre chose que ce qu'on nous assène à longueur de temps. On a un dernier morceau à vous passer. Alors là, c'est moi qui l'ai choisi. Ça va être une surprise pour Claire-Lise. Et après, on aura quelques secondes pour se dire au revoir et bonne fin d'année. Mais voici déjà la chanson.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. J'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des Mantes, j'écris ton nom. J'écris. Plein de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Liberté. Liberté.
un retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc ça, c'est un petit cadeau pour Claire-Lise, parce que je sais qu'elle aime beaucoup et la chanteuse qui s'appelle Madeleine Perroux et le poème d'Éluard Liberté. Donc voilà, c'était un petit cadeau pour toi en cette fin d'année. Bah de rien.
C'est très beau.
Et puis voilà. Et puis on va terminer l'émission en vous souhaitant effectivement passer un très joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre, et puis une bonne année pour commencer les premiers jours de 2026. Et donc, juste pour rappel, nous on se retrouve en direct à l'antenne de Principe Actif, sur l'antenne de Principe Actif, pardon, le mardi 13 janvier à 19h. Et on vous rappelle qu'on a donc plein de podcasts en ligne sur le site de la radio principeactif.net. Et puis notre adresse mail aussi, et si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, evreux@amnistyfrance.fr. Voilà, et puis également, on se retrouve le jeudi 8 janvier au Cadran. On est partenaire avec nos amis du Tangramme pour un spectacle qui s'appelle « Grand-peur et misère du Troisième Reich ». Le titre est suffisamment éloquent pour qu'on ne vous en dise pas plus. On aura une table de presse, bien sûr, avec des pétitions à signer. Je crois que le Cadran va être complet, d'après ce qu'on m'a dit. Tant mieux. Donc, on se retrouve le 8 janvier au Cadran pour cette soirée d'information et de théâtre. Voilà. On souhaite une bonne année à tout le monde, Claire-Lise.
Oui, on souhaite une bonne année à tout le monde. Et pour 2025, n'oubliez pas, la lutte, c'est classe, mais c'est bien quand on est ensemble, tous ensemble.
C'est ça, exactement. Une très belle définition de ce que représente Amnesty International. Bon réveillon, à très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Je me dis, alors, 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 vous rentrez du troisième genre. antenne capte une multitude de fréquences. Pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Ça, c'est le rôle du tuner.
Nous nous excusons de la mauvaise qualité du son, dont la cause est indépendante de nos installations.
C'est pas mal, Johnny, mais j'entends pas terrible, hein. Ça grésille.
Et la FM, c'est fait pour quoi ?
Principe actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.